Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et en fait, le problème, c'est que les deux, trois fois où je lui ai mis des belles patates dans la gueule, je me suis dit, mais ça lui fait rien, en fait, quoi. Et elle était là, la différence. C'est-à-dire que à chaque fois, je me suis dit, tiens, c'est là bien, tac, tac. Et je voyais, il bronchait pas, quoi.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Bienvenue, welcome sur le vol à destination de Tourista. Les chefs de cabine Maximuska et Marie De Breuer, qui ne se sont évidemment pas rencontrés ivre-mort à Phuket, sont à votre entière disposition pour vous faire passer un agréable voyage. Alors attention, PNC aux portes, désarmement des toboggans, et surtout évitez les glaçons dans le jus de tomate. Bon vol.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tourista. Après avoir brillé dans deux saisons de Koh-Lanta, Alban Pellegrin revient avec la série Amateur, où il nous fait découvrir la culture d'un pays en allant se péter la gueule avec des locaux, en les affrontant dans leur sport national. La saison 1, c'était en Thaïlande. Pour la deuxième, fraîchement dispo sur la chaîne YouTube de GQ, il découvre et nous fait découvrir le Sénégal et la lutte sénégalaise. À chaque fois, Alban a une semaine pour s'entraîner et apprendre la discipline, et à chaque fois, ses coachs lui explique que c'est de la folie de faire un vrai combat avec si peu d'entraînement. Mais Alban, il y va quand même. Et ça, ça me parle. Et ma fracture et mes civis à l'avant-bras, ça leur parle aussi. Mais avant qu'Alban nous raconte ses aventures, qu'on parle de courage, de folie, de dépassement de soi et qu'on compare nos cicatrices, je dis bonjour à Marie.
Bonjour. Mais tu sais que c'est vraiment la remarque que je me suis faite. Je me suis dit, mais c'est Maxime en Thaïlande.
Bah, je sais pas si t'es au courant, Alban. Bonjour, Alban.
Salut.
Mais, tu sais, quand on s'est rencontré avec Marie, trois jours après, je montais sur un ring. Je faisais un combat de boxe thaï contre un.
J'ai un tout petit peu insisté. Ouais, moi, ouais, j'ai fait, mais tu peux le faire, vas-y.
Donc c'est ta faute.
C'est un touriste polonais qui faisait du karaté depuis qu'il était à peu près né, quoi. Et bah, il m'a pété l'avant-bras au deuxième round, quoi.
Aïe.
Voilà. Donc
et t'as tenu un round au moins.
J'ai tenu un round, carrément. Ah bah,
ouais. Mais on a eu le bucket d'alcool que je voulais.
Oui, voilà. Donc la différence, c'est que nous, on avait un bucket d'alcool en jeu. Toi, quand tu vas te péter la gueule, il y a pas de, t'as une récompense à la fin, c'est quoi?
Non, non, la seule récompense, c'est l'expérience, c'est de se dire ça y est, à la fin, c'est fini en fait. Voilà. Mais c'est autre chose en fait.
Oh, on va parler de tout ça, Alban. Ouais. On a une heure entre nous là, tranquillou. Déjà, on a un premier exercice au début dans Tourista. Ah. Tu sais, on voudrait retrouver une ambiance auberge de jeunesse à l'heure de l'apéro. Donc, imagine qu'il y a que des touristes autour de toi qui te connaissent pas, et donc on parle anglais quand on est dans une auberge de jeunesse. Donc, comment tu te présentes à des gens qui te connaissent pas en anglais? Hello Alban.
Hi.
Hello.
My name is Alvin. L'avantage que j'ai, moi, c'est que c'est vrai que j'ai eu la chance de faire mes études aux États-Unis.
Ah bah voilà.
Donc j'essaie d'avoir un accent anglais et de temps en temps je me dis que mon accent français sert. Donc au lieu de faire My name is Alvin, je fais My name is Alban. I'm French. I'm really proud to be French. Tout simplement. Voilà. Et ensuite sur la petite anecdote, je la fais en français ou en anglais?
Non, comme tu veux. Si tu te présentes de façon très courte, ça nous va. Mais si
non,
tu peux
la petite anecdote que je raconterai sur mon expérience que j'ai pu vivre, c'est quand une fois que je suis allé au Vietnam, ouais, dans un road trip avec six copains. Je crois que c'était mon premier road trip. Je devais avoir 20-21 ans. Mm-hmm. Donc on part un peu à l'aventure. C'est un peu fou. Et on était en fait dans le nord du Vietnam, proche de la frontière chinoise. Ouais. Et là, on me dit, on va faire un road trip, mais avec un scooter. Donc moi, scooter, sur le principe, je me dis, pourquoi pas. Ouais. J'ai fait du vélo toute ma vie. Ma mère m'a toujours interdit de monter sur un scooter. Donc je me suis dit, c'est un peu comme le vélo, ça va le faire. Sauf que là-bas, ce n'est pas des scooters, c'est des petites motos.
Ah oui,
où on freine vitesses. Avec pied droit et on passe les vitesses avec pied gauche.
Ouais.
Ou l'inverse. Et on était dans l'équivalent, je ne sais pas si vous connaissez ce documentaire, Les routes de l'extrême.
Ouais.
Et ben, on a roulé dans des choses comme ça. Et il s'avère, je crois, au septième virage,
ouais,
que j'ai vu un camion face à moi et que je suis passé sous le camion.
Oh, merde.
Voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai vu, entre guillemets, un petit peu ma vie défiler. Ça n'a pas été très rigolo à vivre sur le moment. Et surtout, tous mes copains qui m'ont vu derrière, parce que j'étais vraiment sous le camion, ce n'est pas vraiment une image, hein. C'était assez dingue à vivre. Et surtout, derrière, ben, on avait 250 km à faire. Donc, c'est soit on remonte et on se dit qu'on est fou. Soit on s'arrête et j'étais un peu abîmé, pas autant que
mais
toi.
Mais toi, t'es fou, toi.
Et on a remonté, oui.
Bah, on
est remonté.
Évidemment.
Eh bien, Alban, j'ai l'impression qu'on était dans le futur, là, juste à l'instant, parce que c'était l'anecdote que je t'ai demandé de préparer, que tu vas nous raconter.
Ah oui,
là.
Ah mince.
Alors, ça, normalement, c'est à la fin de l'épisode.
Ah,
mais c'est
j'ai cru que tu m'as demandé, une petite anecdote. Autant pour moi.
Oui, non, mais t'inquiète. Non, mais parce qu'avant l'émission, je lui ai dit, ouais, si tu peux nous préparer une petite anecdote, à un moment, on a un petit concours d'anecdote. Et là, il est parti.
Alban,
va trouver.
J'espère qu'on a d'autres. Hein.
Ouais, tu vas en avoir.
Les anecdotes, j'en ai pas mal.
Donc là, on est. Tu savais qu'on était une heure ensemble, Alban.
Ah, mais alors, voilà. Mais...
Ouais, parce que là, sinon,
malheureusement, il allait dire.
Non, j'allais dire une heure, c'est trop court, hein, par rapport à tout ce qu'on a à dire, hein, donc on a le temps.
On va bien prendre le temps. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que signifie le voyage pour toi ? C'est quoi dans ta vie, le voyage ?
Oh, le voyage, ben, c'est de la découverte. Il y a une très jolie phrase. Je crois que c'est Kant qui disait : pour se découvrir soi-même, il faut découvrir les autres. Et je trouve que cette phrase, elle est assez incroyable. On est dans un monde très 2.0 et pourtant, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi éloignés les uns des autres. On a accès à ce qu'on appelle les réseaux sociaux et pourtant, Dieu sait qu'il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de... Enfin, on assiste, je trouve, à une période qui n'est pas facile alors qu'on ne se rend pas compte à quel point on a de la chance. On a de la chance parce que voyager est devenu quand même beaucoup plus accessible que l'époque, rien que de nos parents. Ne serait-ce que par des compagnies aériennes qui sont low cost et qui maintenant nous donnent accès. Je suis allé à Marrakech il n'y a pas longtemps. Voilà, financièrement, on peut se le permettre. Donc déjà, c'est une chance. Et pourtant, on se plaint. Donc c'est vrai que je dirais aller dans la découverte des autres. Et justement, dans la découverte des autres, notamment culturellement, parce que ça nous rendra un tout petit peu plus humbles. Je ne dis pas que les Français ne le sont pas, mais je dis que quand on découvre d'autres personnes et d'autres cultures, c'est là où on s'aperçoit déjà, un, la chance qu'on a de vivre dans un beau pays comme la France, et deux, quand on revient, d'essayer d'être un tout petit peu plus humble que ce qu'on peut avoir. Et attention, quand je dis ça, je me la pique surtout à moi, hein, donc je suis pas un moralisateur du tout.
Très bien, on va parler de tout ça tout à l'heure, de toutes tes vies que tu as eues. Mais avant, s'il te plaît, je voudrais donner la parole à Marie qui nous prépare à chaque fois un petit quiz pour nous mettre dans l'ambiance. Je sais pas ce qu'elle nous a préparé,
oui.
Mais maintenant elle nous a dit: à chaque fois qu'il y a un quiz, on va apprendre des choses.
D'accord. Alors...
Donc on va voir si elle n'a qu'une parole.
Et il y a quoi à gagner à la fin ?
Un bucket. J'ai plus d'alcool
Bombay
chez moi. Un bucket de Bombay. Voilà.
Alors oui, c'est vrai que j'ai dit ça sur apprendre des choses. Mais du coup, j'essaie de thématiser un peu mes quiz. On t'a connu avec Koh-Lanta, mais ouais, ça aurait été trop simple de faire un quiz spécial Koh-Lanta. Oh. Et il y a une autre émission qui s'appelle Les Apprentis Aventuriers sur W9, qui mélange une de mes passions, c'est la télé-réalité. Et donc, c'est des candidats de télé-réalité qui font une aventure. C'est genre, ça mélange Koh-Lanta et les Marseillais. Tu t'as la ref ou pas, Max ?
Moi, je regarde Koh-Lanta, mais c'est la seule émission de télé-réalité que je tolère à peu près, quoi. Enfin, moi, j'adore Koh-Lanta, mais j'ai pas trop regardé les autres choses, non ?
Bah, écoute, donc Les Apprentis Aventuriers, tu vas voir, c'est de la survie, mais pas trop. Du coup, j'ai plein de questions marrantes à propos de ça. Donc, dans Les Apprentis Aventuriers, il n'y a pas d'épreuves de confort, mais des épreuves qui permettent de gagner des perles. À quoi servent ces perles, à votre avis ? Petit 1, à gagner des avantages pour les épreuves d'après. Petit 2, à s'acheter de la nourriture chez l'épicier, car oui, c'est de la survie, mais pas trop quand même. 3, à faire des colliers.
Le 2.
J'ai
l'avantage de connaître cette émission pour deux raisons. Mmh. La première, c'est que les deux animateurs, parce qu'il y a eu un nouvel animateur, le premier était Moundir, d'ailleurs ça s'appelait Moundir et les apprentis aventuriers, et le deuxième est mon ami Laurent Mestret, que je trouve incroyable dans cette aventure. Donc c'est vrai que là, je pense que je vais essayer de gagner tous les points et qu'on peut déjà me donner les bons points.
Effectivement, il y a une épicerie sur le coin d'île où ils sont, ce qui est un peu rigolo. Donc ils gagnent des perles à leurs épreuves et après ils peuvent s'acheter des trucs, 40 perles, le sandwich, etc. etc. D'ailleurs, dans cette épicerie, qu'est-ce qu'on ne trouve pas comme objet ? Petit 1, des briquets, parce que quand même, faire le feu, c'est la base. 2, un matelas, ça va, on peut dormir sur du bois. 3, du démaquillant, vu que personne ne se maquille, ça n'a aucun intérêt. 4, un sèche-cheveux, j'avoue, relou quand tu sors de la mer les cheveux mouillés. Ou 5, un service de table assiette-couvert.
Assiette-couvert.
Ah,
sur ces 5, il y en a 4 qui tu peux acheter dans l'épicerie.
Ah, bah là, il n'y a pas le sèche-cheveux.
Et oui, il n'y a pas le sèche-cheveux, voilà, puisqu'il n'y a pas l'électricité.
Ah, d'accord.
Bien facile. Joué, bien joué.
Ouais, putain, je remonte, hein.
Tu remontes. Eh ouais, un partout. Un partout.
Je lui ai laissé
comme il y a 4 questions, c'est une galère. Donc, il y a 12 candidats, 6 équipes, et chaque équipe a sa couleur, orange, jaune, gris, noir, etc. Et donc, voilà, ils ont quand même quelques tenues, ils apportent quelques vêtements sur leur île, ou je ne sais même plus s'ils sont sur une île. Ils apportent quelques vêtements dans leur cabane. Mais la production a quand même demandé un petit détail fashion. À votre avis, quel est-il ?
La production a demandé un petit détail fashion ?
Ouais, sur les choix des vêtements. par équipe.
Ah bah la couleur.
Effectivement, ils sont habillés tout le temps de la couleur de leur équipe. Donc les oranges sont tout le temps oranges, etc.
Ce qui était d'ailleurs le cas sur les premiers Koh-Lanta.
Ah mais oui, c'est vrai.
Sur les premiers Koh-Lanta, il y avait les équipes qui sont les mêmes couleurs, jaune et rouge. Et je crois sur les premières ou deuxièmes saisons, parce qu'on a fêté les 20 ans, donc on a revu quelques images. Et l'équipe jaune, ils étaient tous en jaune et l'équipe rouge, ils étaient tous en rouge.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me souviens.
Et ce qui n'arrive plus aujourd'hui pour la simple et bonne raison, pour qu'on n'anticipe pas les équipes et qu'il n'y ait pas des stratégies qui puissent se monter avant. Voilà, ça c'était le petit...
On commence à avoir des coulisses sur Koh-Lanta, j'adore.
À votre avis, comment nos 12 candidats font-ils pour se laver?
La mer?
Avec le sable. Le sable et l'eau.
Eh bien non, ils ont des douches.
Oh non.
Ils ont des petites douches derrière les cabanes avec une quantité limitée en eau quand même. Et ils n'ont pas de savon, chaudes, etc. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas le détail sur est-ce que l'eau est chaude. Je ne pense pas. Mais ils ont quand même de l'eau, voilà, pas de l'eau salée, quoi. Ils ont une petite douche, voilà, donc ils peuvent s'acheter du shampoing, blablabla.
Alors c'est marrant, parce que pour avoir fait Koh-Lanta deux fois, moi je trouve que s'il y a bien quelque chose qui m'a pas vraiment choqué ou manqué, c'est la douche ou le shampoing, ou le... Enfin, on s'habitue tellement, puis on sent tellement mauvais qu'au bout d'un moment, bon, c'est un concept, hein. Donc,
ah ouais, vous sentez encore que vous sentez
mauvais?
En fait,
on sent plus mauvais dès l'instant que le feu arrive. Parce qu'en fait, ça veut dire que vu qu'on dort autour du feu, notamment le soir, pour se réchauffer, donc on sent effectivement le feu de bois et nos vêtements qui nous ramènent après. On a beau les laver une quinzaine de fois, on sait que ces vêtements sont made in Koh-Lanta parce que c'est impossible à faire partir la fumée.
Oh, très bien. J'ai un truc comme ça, moi, où j'ai passé une semaine dans une yourte où il y avait un feu de bois, où j'avais fait une retraite, enfin un truc bizarre, et j'ai gardé des guirlandes un petit peu, tu sais, du Népal, ces trucs, et je les ai mis dans un Tupperware pour pouvoir ressentir un peu l'odeur du Népal, du feu de bois. Ah, c'est trop cool, j'adore ça. J'adore ça. Ah, bah, attends, tu es en train de parler de Koh-Lanta, donc c'est parfait parce que il paraît. Ah. Que tu avais une petite frustration bien particulière quand tu tournais Koh-Lanta. On m'a appris ça. Alban, est-ce que tu pourrais nous en parler? Tu as une petite frustration.
J'ai une frustration?
Ouais, t'étais bien frustré d'un truc sur le tournage.
J'étais frustré. Ouais.
Je suis allé à la pêche aux infos auprès de ta coloc.
C'est vrai? De mon ancienne coloc.
Ah, ouais, ton ancienne coloc, ouais.
Manon qu'on embrasse.
Manon Allender qu'on embrasse, bien sûr. Alors
qu'est-ce qu'elle allait lui dire? Je n'ai aucune idée en termes de frustration.
Bon, il paraît que ce qui te manquait vraiment le plus, c'était la petite musique d'ambiance pour te motiver, la musique du générique et tout, il n'y avait pas.
Donc... C'est vrai que j'adore cette musique, enfin, Koh-Lanta, on a grandi un peu avec, quoi. Donc c'est vrai que la petite musique, et quand on partait, ils nous font faire des séquences de départ quand on part du camp, et malheureusement, à cause de moi, on les refaisait toujours deux, trois fois, parce qu'en partant, je chantais la musique. Et donc, il disait « Alban, non, arrêtez de chanter. » Il nous faisait faire demi-tour.
Parce que sinon, il ne pouvait pas faire le montage.
Exactement. il me mettait derrière, ils n'en pouvaient plus de moi. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez, voilà, assez terrible.
Je trouvais ça mignon. Parce que
c'est mignon.
Ça doit être...
C'est mignon. Ça veut dire que Manon a balancé des choses. Donc, je vais l'appeler juste après.
Elle a été très gentille. Elle m'a dit que tu étais un sacré personnage. Elle m'a dit que tu avais toujours la niaque. Elle m'a dit que tu avais de grandes capacités sportives.
Bah, c'est gentil.
Même si on ne le voyait pas trop au départ.
Ça, c'est à cause de mes poils. Vu que je suis très poilu, je cache les muscles dessous.
Voilà. Mais voilà. Elle m'avait juste raconté cette petite anecdote. Je me suis dit que c'était sympa d'essayer d'aller à la pêche aux infos comme ça. Donc, merci, Manon. On t'embrasse. En fait, on va donc parler, je pense, de Koh-Lanta. On va parler d'amateurs. Mais j'aimerais bien savoir, le Alban, avant Koh-Lanta, il faisait quoi? Est-ce qu'il a vécu des aventures? C'était qui, le Alban de Koh-Lanta? Parce que je pense que ta vie, elle a un peu changé après, quand t'es devenu candidat de Koh-Lanta. Mais c'était qui, le Alban d'avant, quoi?
Ma perception a changé, effectivement, après. Mais le Alban d'avant, c'était surtout un grand rêveur.
Ouais.
Elle est là, la différence, c'est qu'avant, j'ai eu la chance, moi, de faire un bac littéraire. Moi, je dis que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ça n'existe même plus.
Mais, ouais, y a plus de...
mais c'est vrai qu'un bac littéraire, bah, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est on se concentre surtout sur... On a 7 fois plus d'heures de philosophie, d'heures de français et quasiment pas d'heures de maths. Mais vu que les maths n'existent plus maintenant, ce n'est pas très gênant. Mais c'est vrai que je dis que ça m'a appris à lire et donc à m'ouvrir. Parce que je pense que ma première des rêveries culturelles, au-delà de mon amour pour le cinéma, a été surtout à travers les livres. Et quand on lit, que ce soit du Jules Verne, du Petit Prince ou n'importe quoi, ben la première chose qu'on a envie de faire à la fin du livre, c'est de vivre notre propre aventure à nous. Et c'est vrai que j'avais un côté un peu rêveur, mais j'ai jamais eu trop l'expérience, excepté le Vietnam, excepté d'autres choses. Donc c'est vrai que c'est à travers, moi après mon bac, je suis parti vivre à Londres pour apprendre l'anglais, tout simplement. Et il y a un concept que j'adorais en Angleterre, c'est la méritocratie. C'est-à-dire que en France, on n'est pas trop au mérite. Hein, on va pas dire ça comme ça parce que c'est méchant. Mais ce que je veux dire, c'est que en Angleterre, on laisse beaucoup plus sa chance. Ce qu'on appelle le côté anglo-saxon, un peu à l'américaine, c'est qu'on pousse les gens en fonction de leur envie et de leur niaque, justement. On leur donne leur chance, qu'importe leur âge ou leur expérience. On ne calcule pas en termes de temps, on ne calcule pas en termes d'expérience. Ça me fait toujours marrer les gens qui recherchent des stagiaires ou des alternants avec de l'expérience. Enfin, c'est le principe d'un stagiaire et d'un alternant, c'est qu'il faut lui donner de l'expérience pour qu'il puisse se révéler. Et ben, je trouve que c'est ce qui m'a plu. Et ensuite, donc, j'ai fait mes études, des études franco-américaines. J'ai eu la chance donc d'étudier aux États-Unis, de faire l'humanitaire en Argentine, donc de m'ouvrir un petit peu au monde, parce que je trouve que la plus belle des ouvertures qu'on a, c'est de voyager, c'est à travers le voyage. Et à 24-25 ans, ouais, 24 ans, mon diplôme en poche, mon année aux États-Unis où j'ai vécu vraiment le rêve américain, j'étais sur un campus.
C'était où ?
J'étais à Rider University, qui est un petit campus entre Philadelphie et New York.
Oh.
Mais vraiment un vrai campus à l'américaine.
Ah, trop bien.
C'est-à-dire que souvent, on pense que dans les films, ils exagèrent certaines choses. Mais quand vous allez à la cantine du campus, il y a vraiment, vraiment d'un côté gens, les pom-pom girls, les nerds. Il y a un côté vraiment où c'est des castes à droite à gauche. Et c'est très dur de s'intégrer. Autant on est tous mélangés, autant ben, nous, on est les Européens.
Ah oui.
Et donc, il faut savoir, pour s'intégrer, il faut faire partie d'une autre case. C'est-à-dire que j'avais la chance de jouer au foot, enfin au soccer, parce que j'ai pas trop le physique pour faire. Ce sera peut-être l'objet d'un amateur, ça, le football américain. Mais c'est vrai que je faisais du soccer, ce qui permet de découvrir d'autres personnes. Et ensuite, bon, bah, on était entre Philly et New York, donc on partait, on prenait notre train, on vivait des choses assez dingues. Donc c'est vrai qu'on revient, on a le monde du travail qui s'ouvre à nous, et puis on a toujours cette petite frustration parce qu'on a envie. Un, ben, de gagner un peu sa vie pour voyager, mais deux, aussi de continuer à voyager de manière pas touristique, mais de manière humaine. Et elle est là la vraie différence et la vraie dualité qu'on a aujourd'hui, c'est de quelle manière on peut avoir ce sentiment de voyage sans avoir ce sentiment du voyage touristique. Et aujourd'hui, grâce à des guides du routard, des Lonely Planet, on a cette possibilité justement de sortir un petit peu des sentiers battus. Mais même quand on sort des sentiers battus, il est compliqué de se retrouver, entre guillemets, vraiment dans l'essence même de l'aventure. On arrive à retrouver le voyage, mais on a du mal à trouver l'aventure. Et le jour où j'ai fait Koh-Lanta, quand je suis revenu de Koh-Lanta, j'ai compris ce qu'était le dépassement de soi, au sens noble du terme, dans le sens où avant, j'avais voyagé, j'avais vécu des belles expériences, mais en revenant de Koh-Lanta, j'avais vécu l'une des plus belles aventures de ma vie, parce que... humainement, ce que j'avais vécu avec des gens, on a cité Manon tout à l'heure, ben c'est des gens qui m'ont marqué à vie. Et pourtant, on n'a fait que 20 jours ensemble sur place. Mais on a ce lien, on a ce lien d'aventure, comme on peut avoir de temps en temps avec... bah comme vous, hein, de ce que
quand
je peux comprendre.
Ouais, quand tu vis des aventures en voyage.
Il y a des choses.
Et on est allé à Koh-Lanta, nous aussi.
C'est vrai qu'on est allé à Koh-Lanta.
Ouais, à l'île de Koh-Lanta.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est vrai que les gens, de temps en temps, ne peuvent pas tout le temps comprendre. Une amitié n'est pas forcément sur le temps. Sur la durée, une amitié aussi, et sur l'expérience et ce qu'on vit, et ce qu'on pourra jamais réussir à décrire, parce que c'est en nous, et c'est ça. Avant, j'étais un amoureux de voyage, mais comme je pense 99% des Français, et après Koh-Lanta, je suis devenu un rêveur qui avait envie de s'accomplir un tout petit peu plus.
Excellent. Alors, Marie a eu les yeux qui pétillent quand t'as parlé de campus universitaire, etc. Donc, elle, parce qu'elle, sa vie, c'est dans les séries, films. Dans les films.
C'est vrai.
Donc, est-ce que t'as une question? Tu veux en savoir plus hein, sur... As-tu des questions
sur les sororités? Moi, j'allais demander, est-ce que t'es allé avec les pop-up girls et tout?
Ah non, mais c'est vraiment impressionnant, parce qu'il y a là-bas, aux États-Unis, des sororités. C'est-à-dire que les fameux Alpha, Delta, Gamma...
Ouais,
et aujourd'hui, il y a un documentaire qui est sorti sur Netflix, sur Abercrombie. C'est presque un petit peu ça. C'est-à-dire qu'ils mettent vraiment des gens qui sont presque tous beaux, tous grands, tous costauds. Et je pense qu'aujourd'hui, ça n'existerait plus, parce que j'ai fait mes études en 2014, 2013-2014. Donc c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, il y a une approche totalement différente sur l'ouverture, et tant mieux. Sur l'ouverture aux autres, mais c'est vrai que c'est. On se dit toujours que dans les films, ils exagèrent, mais pas du tout. C'est des maisons avec des sigles de lettres grecques.
Ouais.
Et on a vraiment, quand on passe devant, on a l'impression que derrière ces portes, il se passe des choses. Et le pire, c'est qu'il se passe vraiment des choses. Ouais. J'ai eu la chance d'être invité dans certaines soirées ou autres. Et c'est pas vraiment racontable. Mais en tout cas, c'est des expériences de vie assez incroyables. Et en même temps, je me suis jamais senti aussi fier d'être français que là-bas. Parce que autant je trouve que le rêve américain, il est magnifique. mais autant je me suis jamais senti aussi socialiste, parce que là-bas c'est vraiment marche ou crève. C'est-à-dire que la réussite, elle peut être incroyable et exponentielle, autant faut pas échouer. Parce que si on échoue, c'est vraiment la descente aux enfers. Donc c'est vrai que j'ai adoré mon expérience, mais ça m'a aussi fait me sentir fier d'être français, de tout notre système social, et justement un petit peu ce que je disais au début, de la chance qu'on a d'être dans un pays aussi ouvert, humain que la France. Parce qu'aux États-Unis, oui, la réussite peut être incroyable, mais je ne vous souhaite pas de vous tromper aux États-Unis, parce que se relever, c'est compliqué. Donc voilà.
Oh, t'es parti sur les teufs avec les gens qui faisaient l'amour tout nu dans les piscines pour
finir sur...
C'est drôle que t'aies dit que le truc qui m'a fait pétiller, c'est... Oh ouais.
Je t'ai vu quand même, franchement,
les universités américaines, comme dans les films.
Non, mais c'est dingue.
Bon, alors, on va faire ça dans l'ordre. Alors, maintenant, ça va être un peu Koh-Lanta, quoi. T'as dit dans une interview pour Fabrice Florent que c'est 4 fois pire en vrai qu'à la télé.
Oui.
Alors, ça a dû changer depuis que t'as participé, parce que moi, j'ai lu les articles du Parisien là, sur les derniers épisodes, là, avec les mecs...
qui mangent des sandwichs,
avec les Claude, là. Il m'a déçu, celui-là.
Claude, c'est un ami.
C'est un ami, d'accord. Bah ouais, bah, faut arrêter de tricher, les cocos, hein, parce que moi, j'y crois plus, quoi, putain. Mais bref.
Ça va, Maxime.
Pouf, t'es ourra, en plus, c'est le seul à avoir pris cher. Enfin bref. On n'est pas là.
Il aime vraiment beaucoup Koh-Lanta.
Non, mais j'aime la justice, moi. Pourquoi c'est le seul à avoir été défoncé dans l'émission? Bref.
On sait pas vraiment ce qui s'est passé, d'ailleurs. Hein. On peut...
Ah bah apparemment, il y a des photos.
Apparemment, il y a des photos
où ils sont en train de chiller dans un hôtel pas loin et tout.
On sait pas.
En tout cas, Marie, je leur en veux pas du tout.
Ah non, mais sérieux.
Ça va.
Qu'est-ce qu'ils vont inculquer à leurs enfants derrière?
C'est une deuxième fois.
Mais oui, c'était
leur sixième fois.
Mais oui, c'était en vacances.
Voilà, non, bah,
ils étaient au Club Med, les gars. C'était abusé. Bref, trop frustré. Mais bon.
Je pense qu'il y a beaucoup d'exagération. C'est le principe des rumeurs. C'est que je pense que peut-être, moi je ne sais pas ce qui s'est passé, et c'est ce que je dis, je ne voudrais pas le savoir, comme ça je n'ai pas à mentir ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a eu tout un pataquès et beaucoup d'exagération. Il y a peut-être eu des choses, mais il ne faut pas non plus en faire. Enfin, oui. Moi qui l'ai vécu 2 fois et qui ai justement dit cette fameuse phrase, là-dessus c'est 4 fois pire en vrai, enfin, de mon expérience qu'à la télé.
Justement, je voulais que tu fasses contrepoint par rapport à moi, ma vision de téléspectateur. Je voulais que tu nous expliques un petit peu en quoi c'est différent. Enfin, tu peux nous raconter un peu la fin et tout ça, qu'est-ce qu'on voit pas, qu'est-ce qui est...
J'ai une anecdote que j'aime raconter. Quand je dis que c'est 4 fois pire en vrai qu'à la télé, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'à la base, ça reste un programme familial. Mmh. Mais en fait, nous, c'est très freudien d'ailleurs, comme celui qui a créé Koh-Lanta, pour moi, il a fait un copier-coller sur Freud. C'est-à-dire qu'il a tout compris à l'être humain. L'homme avec un grand H. C'est-à-dire qu'il a dit d'abord, on va faire 2 équipes, où le but, c'est quand même d'avoir le plus de gens qui arrivent à la réunification ensemble. Donc, logiquement, ils vont essayer de garder les meilleurs. Ensuite, on va les réunir. Et là, on va faire un côté individuel. Donc, on va mettre en place le fameux système de la démocratie. Mais le principe de la démocratie, c'est que la majorité de gens, entre guillemets, qui sont un peu plus faibles, vont virer les plus forts. Donc, c'est vrai que c'est tout un concept. Et derrière, quand je dis que c'est 4 fois pire en vrai qu'à la télé, c'est que déjà, on peut dire ce qu'on veut. Il suffit de voir la perte de poids qu'on a.
Ouais, c'est vrai.
Moi, sur mon premier Koh-Lanta, je fais que 20 jours. Et pourtant, je perds 9 kilos 2. Et c'est là où je vois que mentalement, j'étais bien plus préparé sur mon deuxième. Parce que sur mon deuxième, je mange beaucoup moins. Et pourtant, je fais 25 jours ou 25 jours. Et je perds que 8 kilos ou 7 kilos 9. Donc, ce qui montre qu'en fait, mentalement, j'étais plus préparé. Et l'anecdote que je cite toujours en disant que c'est 4 fois pire en vrai qu'à la télé, c'est que plus on souffre, plus il y a du spectacle. C'est-à-dire qu'il y a des gens leur privent de café le matin, ils font faire la gueule. Donc imaginez quel intérêt aurait la production à nous aider ou à nous donner à manger. Et je prends toujours cette anecdote. Un jour, mon premier Koh-Lanta, c'est le 18e ou le 19e jour, c'est la première fois que je gagne une épreuve de confort en équipe. On gagne les fameux burgers. Super. On gagne les burgers de Koh-Lanta. Il s'avère que nous, dans notre équipe, il y en a une qui est végétarienne. Elle demande si à la place de la viande, elle pourrait avoir autre chose. Donc ils disent pas de problème. Ils nous donnent nos sacs, et là, frustration extrême, ils disent attendez, pour la séquence, vous allez manger vos burgers sur votre île, donc gardez-les. Donc on est dans le bateau avec l'odeur de burger, on a le coca main gauche, on fait 5 à 10 minutes de trajet, on arrive, on se pose, et là à ce moment-là, on s'aperçoit que le burger végétarien, en fait, ils ont juste enlevé le steak.
Oh.
Et là, on leur explique tout simplement, attendez, si vous avez juste enlevé le steak, ce steak-là, nous on l'a gagné, ramenez-le. Et ils disent, non, trop tard, quoi. Et là, mais...
Les animaux.
Ah, mais des animaux. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est là où je cite en exemple la production, c'est que tout ce qui est montré, c'est tout ce qui est vrai, et même de temps en temps, c'est pire. Ouais. C'est-à-dire que là, on avait juste un steak en moins. Et on a fait presque pas grève, mais je veux dire, j'avais jamais compris, moi, parce qu'on est 48 heures enfermé dans une chambre avant, parce que par rapport au décalage horaire, pour qu'on se remette en condition. Et il y avait la production qui venait nous voir en disant, surtout, soyez gentils avec les caméramans, soyez sympathiques. Moi, j'ai mon éducation, évidemment que je serais gentil. Et là, j'ai compris pourquoi il disait ça. C'est qu'en fait, la fin, vous faites de temps en temps devenir un peu fou. Et je vous garantis qu'il y a eu dans certains regards, et notamment le plus ancien d'entre nous, que je ne citerai pas, mais qui était d'un calme incroyable. Et là, c'est la première fois où j'ai cru qu'il allait sortir de ses gonds et vraiment que ça allait être tendu. Ils ont vu à notre regard qu'il fallait absolument qu'il nous ramène le steak. Et sachant que l'équipe d'en face, ils étaient un de plus, on s'est dit qu'ils allaient nous ramener un burger complet. Ils ont juste ramené le steak dans de l'aluminium.
Oh non.
C'est juste pour vous montrer en fait à quel point, moi j'adore cette anecdote, à quel point ce qu'il montre à la télé de ce qu'il donne, c'est vraiment ce qu'on a. Ouais. Et on s'est partagé ce steak à... Je sais pas, on était 6, donc ça faisait vraiment pas grand-chose. Mais voilà, pour moi, c'est une anecdote qui symbolise bien à quel point cette aventure, c'est une aventure où c'est dans la difficulté qu'on se révèle. Et c'est pour ça que je trouve que qu'il y ait des gens qui ont envie de filouter, il y en aura toujours. Ça fait partie
parce
du jeu.
C'est la vie, Koh-Lanta, c'est la vie, comme voilà. Dirait mon copain Quentin.
Et donc, la filouterie, c'est... Il y a des filous. Voilà.
Mais par contre, moi, j'ai envie de militer pour la végétarienne. Moi, je suis végétarienne, on me ramène...
Non, mais sérieux.
On me dit, steak, bah du coup, t'enlèves juste le steak. Bah ouais, ou mais autre chose.
Ouais.
Un autre légume, un truc, tu vois.
Ouais, mais vraiment on se pose pas de questions.
Non, mais elle, pourquoi elle a eu un truc en moins
Parce que végétarien, c'est une décision. Genre, t'as décidé de pas manger de la viande.
Non, je pense pas. Alors, je pense pas qu'il soit si.
J'en sais rien.
Mais en tout cas, c'est vrai que c'était à l'époque, on se posait moins de questions. Et c'est vrai que c'était. C'est une anecdote, je trouve, qui est assez dingue et qui est assez. Qui est un bel exemple de cette aventure qui a été un peu décriée ces derniers temps. Et je trouve un peu à tort parce que c'est. Regardez, rien qu'en ce moment. À quel point, enfin, il y a un pompier, je pense qu'il a perdu au moins 15 kilos déjà en l'espace de 25 ou 30 jours. C'est bluffant, quoi. Donc,
il est bien gaulé encore le pompier.
Oui, c'est ce que je me dis aussi.
Ah, je le croque. Hein. là, je laisse le steak dedans. Hein.
Ah, franchement, ouais, impressionnant.
Je laisse le steak dedans, il a dit.
Petite question, Marie. Petite question, comment
toi ? Moi, je suis dedans. Hein. Moi, j'ai jamais eu de doute, de toute façon.
T'as jamais eu de doute ?
Je suis pas du genre à faire « Ah ouais, moi je pense que c'est... » Non, mais... Il n'y a pas de doute à avoir.
Non, mais...
Ça existe depuis 20 ans. Voilà. S'il y avait, c'est ce que je dis toujours, c'est comme... Ils posent toujours la question des colliers. Les colliers d'immunité. Moi, c'est ce que je dis. Si la production aidait une personne, depuis 20 ans, ça veut dire qu'il y a à peu près... Il y a eu 400 candidats depuis 20 ans. Il faut se rendre compte de ça. S'ils aident une personne, moi c'est ce que je dis, si un jour ils m'aidaient à trouver un collier, mais faites-moi gagner Koh-Lanta. Parce que sinon, vous tuez Koh-Lanta. Donc, on ne se rend pas compte à quel point c'est une émission qui est tellement puissante qu'ils ne peuvent pas se permettre d'aiguiller ou d'aider. Sinon, ça serait, ils risqueraient justement d'entacher la réputation du programme. Et on voit à quel point elle a pu être un petit peu entachée à cause de certains, et encore à cause du rumeur, à cause de plein de choses. Donc, vous savez, la production, ce n'est pas pour les défendre, ni pour défendre les candidats qu'on a accusés. Mais je vous garantis que c'est un tellement beau programme que moi, ça me chagrine toujours. Quand il y a des gens qui essaient de leur casser un peu de sucre sur le dos, aussi bien que ce soit au niveau des candidats que de la production, parce que c'est vraiment une aventure unique. C'est ce qui m'a permis, moi, entre guillemets, un peu de me révéler, de changer aussi
J'allais te demander, c'était la mentalement. Prochaine question.
Non, mais c'est vrai, c'est...
En quoi ça t'a changé, Koh-Lanta ?
Bah déjà, ça vous change votre perception, entre guillemets, un peu de...
Toi, qu'est-ce que t'a changé, toi, quoi ?
Moi, ça me change, déjà, mon premier rapport... En fait, faut... Dans une journée de 24 heures, moi je dis une journée à Koh-Lanta, c'est comme une journée de chat. C'est multiplié par 7. C'est-à-dire que en France, sur 24 heures, vous allez dormir à peu près entre 7 et 8 heures. Vous allez ensuite, à peu près, si vous rajoutez le petit-déj, le déjeuner, le repas, ça fait de l'activité. Et le reste du temps, bah, vous avez soit les copains, soit le téléphone, soit on va dire les ordi ou la télé. Donc c'est-à-dire que sur une journée de 24 heures, dans notre quotidien à tous, on a rarement le temps d'être en introspection avec nous-mêmes. À Koh-Lanta, 24 heures, on s'aperçoit à quel point c'est long. Parce qu'en fait, vous dormez en fonction, vous dormez à peu près entre 3 et 5 heures, parce que vous dormez sur du sable. Le jour de l'épreuve, ça dure à peu près 2 heures, c'est-à-dire que vous avez à peu près une demi-heure de transport, une heure et demie de jeu, le temps de revenir, allez, on va dire 2-3 heures. Vous allez chercher un peu à manger pendant une heure ou deux heures, mais pas plus. Pourquoi ? Parce que c'est fatigant de chercher à manger. C'est fatigant de pêcher. Donc, c'est-à-dire que vous avez à peu près 12 heures d'introspection sur vous. Vous avez 12 heures où ben vous parlez évidemment avec les copains à droite à gauche, donc c'est pour ça qu'on se dévoile beaucoup plus qu'avec d'autres personnes. Et le reste du temps, vous pensez. Vous pensez à votre famille, vous pensez à vous, vous pensez à votre vie, et en fait, vous passez du rêve à justement une réflexion intellectuelle sur qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je vais rentrer. Mmh. Et donc, moi, quand je suis rentré, j'ai eu envie d'avoir un rapport différent avec mon téléphone portable, j'ai eu envie d'avoir un rapport différent avec ma famille, j'ai eu envie d'avoir un rapport différent avec mes amis. J'ai eu envie, en fait, d'avoir un rapport plus humain, plus proche, parce qu'on s'aperçoit, en fait, à quel point il y a une futilité de notre journée 2.0 qui gâche un peu, ben justement, on est concentré plus sur notre téléphone que sur l'ouverture aux autres. C'est-à-dire qu'on rêve de ce que font des gens au lieu d'essayer de prendre nous-mêmes notre rêve et de le concrétiser. C'est-à-dire que sur Instagram, effectivement, ça fait rêver. Il y a des gens tous les jours qui nous expliquent qu'on a un peu une vie de merde parce qu'eux, ils sont à Tahiti, ils sont dans des hamacs, ils sont en train de se baigner. Et nous, soi-disant, on nous explique qu'on travaille et que c'est pas bien. Non! On travaille, mais on a cette possibilité aussi de voyager, on a cette possibilité de prendre notre vie en main. Et je trouve que il est là notre rapport aux réseaux sociaux, c'est que c'est un rapport où ben, ce qu'on voit, ça doit nous donner envie. C'est un petit peu ce que je reviens sur le principe de la méritocratie anglo-saxonne. Quand on voit une Ferrari aux États-Unis, en Angleterre, on se dit « un jour, j'aimerais bien essayer d'avoir une Ferrari ». Attention, ça ne fait pas rêver tout le monde, mais j'aimerais bien avoir ça. Et ben, je trouve que le voyage, c'est pareil. Quand on voit toutes ces belles images, que ce soit sur l'Italie, on n'a pas besoin d'aller très loin pour ça, ou que ce soit dans les pays d'Amérique latine, ben, de quelle manière, nous, on va aussi pouvoir aller voyager dans ces zones-là. Donc, c'est vrai que c'est ce rapport au monde qui m'a fait que j'ai eu envie de passer de l'état de rêve à l'état de la concrétisation un petit peu plus personnelle et introspective.
Et après Koh-Lanta, moi, j'ai une question. C'était quoi ton premier voyage après Koh-Lanta?
Mon premier voyage après Koh-Lanta.
Gros hôtel de luxe.
Un max de Madame de chambre. Non, mais jacuzzi.
En fait, quand on sort de Koh-Lanta, quand on est éliminé, l'erreur qu'ils font, c'est assez paradoxal, ça me fait penser à cette pub qu'on donne, enfin pas cette pub, mais cette expérience sociale qu'on fait aux enfants. Ils nous donnent un grand sac plastique avec des barres chocolatées, des Snickers, des Twix, des Mars, sachant que le médecin vient nous voir en disant surtout, tranquille, mangez doucement. Je pense que 9 personnes sur 10 mangent tout d'un coup et évidemment, on tombe malade après. On se vide. Voilà. Mais je veux dire, c'est la tentation. C'est-à-dire qu'on on a été privé pendant X jours. On nous donne ce sac qui nous a tant fait rêver. Et là, je pense qu'ils font ça exprès pour nous dégoûter un petit peu. Et résultat, après, on remange un petit peu plus sainement et autres. Parce que moi, j'ai perdu 9,2 kg, mais en l'espace d'un mois, moi, j'ai repris 13 kilos après. C'est-à-dire que c'est là où le yo-yo, il est compliqué. C'est qu'on a été tellement privé qu'on reprend beaucoup plus après. Et sur la question de mon premier voyage...
C'était les toilettes, donc.
C'était les toilettes, j'y suis resté un bout de temps. Non, mais je crois que je ne sais même pas quel était mon voyage d'après, non. Très sincèrement, je sais pas. Je sais que pour moi, rentrer en France, ça a été mon voyage à moi, parce que c'était je suis rentré, nous, on a fini le tournage, c'était fin novembre, début décembre.
La première fois, c'était où déjà ?
Moi, c'est première fois, j'étais en Malaisie.
Ouais.
Et donc, j'ai tourné, je suis parti, ouais, c'est un mois et demi, donc je suis parti en octobre, retour fin novembre. Ouais. Donc, c'est vrai que le contraste est assez saisissant quand on arrive en décembre et que ça caille. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que ouais, j'ai dû voyager en août, peut-être. Où est-ce que j'ai voyagé après ? Aucune idée. Si, peut-être la Tunisie, enfin, je ne sais pas.
Okay.
Je regarderai.
Ouais, mais tu n'avais pas eu un besoin absolu de luxe, de matelas avec 4 épaisseurs.
Non, au contraire, beaucoup plus d'humilité
justement,
que de luxe.
Vouloir retourner.
Je veux de la nature. Ah oui, I want to go back. Comme dans Lost.
Non, je pense qu'on met entre 6 à 12 mois à se remettre d'une aventure comme ça parce que c'est violent intellectuellement, physiquement et mentalement. Mais c'est surtout mentalement que c'est violent et surtout la complexité de Koh-Lanta. C'est que vous le revivez une deuxième fois à travers les images.
Ah
et bah en fait, vous avez deux Koh-Lanta. Vous avez le Koh-Lanta que vous avez vécu, les amitiés que vous faites après, c'est-à-dire que quand vous revenez de Koh-Lanta, vous créez un groupe WhatsApp avec ceux que vous aimez bien et vous passez mais H24 à leur écrire. C'est très français, ça. À leur écrire parce que derrière, vous avez besoin, en fait. Il n'y a que eux qui peuvent vous comprendre. Vous pensez qu'avec les images, on va vous comprendre, mais en fait, les images rajoutent une forme de mini-tension entre certains, alors qu'on avait pardonné. Oui, et les images font que, en fait, notre famille ou nos amis ont dit, mais comment tu peux lui parler à... Donc, c'est vrai que ça va recréer des tensions, ce qui fait que mentalement, c'est assez compliqué. Rajouter à ça cette couche de réseaux sociaux. Nous, à l'époque, il n'y avait pas trop encore. Moi, j'ai créé mon premier sur Instagram lors de la finale de Koh-Lanta. Donc c'est bien pour montrer à quel point on n'était pas vraiment très, très Instagram. Et quand on y retourne, ben, c'est qu'on a compris qu'on est des sadomaso. Donc ça, c'est personnel.
En parlant de sadomasochisme, il y a deux.
Un peu ta sexualité.
Deux documentaires.
Bon, enfin, Maxime.
Marie, je te laisse poser des questions. C'est... Comment tu dates encore? Non, non, bon, bah, là, on va arriver à la série amateur, la série documentaire qui est sur GQ. Là, il y a la saison 2 qui sort. La saison 1, tu es parti en Thaïlande apprendre la boxe thaï.
Ouais.
Et au bout de 7 jours, tu devais faire un combat avec un pro. Ouais.
C'est ça. En fait, c'est, je pense que quand on revient de Koh-Lanta, on a vécu une telle expérience et ça rejoint un petit peu la question que... C'est-à-dire que je me souviens même pas du voyage que j'ai fait après mon premier Koh-Lanta. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'expérience koh-lantaise, entre guillemets, est tellement puissante que le reste, entre guillemets, a un peu moins de saveur.
C'est un peu fade.
C'est comme une énorme soirée de sexe.
Il a dit
très sexe dans cet épisode.
C'est toi, Marie, qui m'a lancé.
Je sais pas comment ça va finir, mais...
Vous me parlez de steak haché, moi. Après, je...
Non, mais c'est vrai, t'as un côté où t'as vécu... quand je dis c'est l'aventure de ma vie, c'est que t'as vécu de telles choses où tu t'es senti tellement vivant qu'effectivement, t'as envie de revivre une aventure humaine, parce que c'est avant tout une aventure humaine, à travers le voyage, parce que c'est du voyage. Et surtout, la vraie question, c'est de quelle manière tu peux le faire. Et donc, j'ai fait un dîner avec mon amie, qui est ma productrice, mais aussi mon amie Sarah Gélin, et je lui ai dit, j'ai envie de repartir vivre une aventure sans élimination, parce qu'il faut dire que les éliminations dans Koh-Lanta, ça peut faire tourner un peu les têtes.
Ah oui.
Et on a eu cette idée ensemble d'écrire et d'essayer d'accomplir cette culture, mais à travers un sport national. D'ailleurs, ça s'appelle amateur, parce qu'on n'a pas la prétention, justement, d'être des professionnels. Et surtout, j'aimerais mettre en avant, moi, le sport amateur. C'est que souvent, le mot amateur, en France, c'est un côté très péjoratif. Mmh. On dit, lui, c'est un amateur. Donc, c'est un peu négatif. Mais le monde amateur, le sport amateur, c'est tous ceux qui se lèvent le samedi matin, le dimanche matin. C'est tous les bénévoles, que ce soit dans le foot, dans le rugby ou autre. Donc, en fait, j'aimerais déjà mettre ce mot amateur en avant. Et montrer aussi que, je pense que, moi, je ne suis pas journaliste et je n'ai pas la prétention de l'être. Et que je pense que comment est-ce que, on va dire, les gens vont se dévoiler à nous, eh bien, il n'y a qu'en en bavant un peu avec eux. Et donc, je m'estime être un personnage secondaire dans Amateur. Les vrais personnages principaux, les vrais héros, c'est ceux qu'on découvre, c'est ceux qu'on rencontre, c'est ceux qui ont sacrifié leur vie. Mr. B, dans mon premier voyage, qui est le coach de mon premier coach en Thaïlande, il y a ce discours entre nous, ce dialogue incroyable. Je lui dis, toi, comment est-ce que tu t'en es sorti? Il dit, moi, dès le plus jeune âge, quand j'avais 5-6 ans, mes parents, ils me faisaient faire de la boxe et j'avais pas le choix. C'est moi qui ramenais l'argent. Et donc, je lui dis, très bien, maintenant que tu as réussi, comment tu es avec tes enfants? Il dit, non, je suis aussi dur avec mes enfants parce que c'est une forme de réussite sociale. Donc, c'est ça aussi où aujourd'hui, nous, on voit une forme de violence. Il ne faut pas oublier que là-bas, ça permet aussi de s'élever et d'aider socialement et que c'est pas. Il faut pas oublier que c'est un art martial. Et que les gens oublient souvent que c'est pas juste se taper. Il y a de l'art là-dedans, et c'est ce qu'on voulait mettre en avant, c'est que c'est pas juste deux personnes qui vont se taper dessus et à la fin il va y avoir un vainqueur. Non, c'est que c'est deux êtres humains où il y a tout un sacrifice, toute une famille derrière, il y a toute une éducation, il y a aussi une volonté dès le plus jeune âge. Enfin, on parle de Teddy Riner. Souvent on voit la réussite en France comme quelque chose de négatif, mais tous les sacrifices qu'il y a eu avant. Ils sont dingues et c'est ça qu'on veut mettre en avant. C'est que ces gens-là, ils ont sacrifié une partie de leur vie pour arriver là où ils en sont et qu'un amateur comme moi, lambda, il va essayer de les mettre eux en avant et d'en baver avec eux parce que...
Ouais, parce que t'aurais pu, en fait, là, ce que tu me racontes, t'aurais pu juste les filmer, rester un petit peu c'est avec ça. Eux, manger avec eux. Pourquoi c'est t'es, pourquoi t'as pété t'as la gueule
parce que je me dis qu'ils vont se dévoiler à moi... avec leur empathie. Ouais. Je pense que l'empathie fait qu'on se dévoile. Souvent, en soirée, par exemple, dès qu'on commence à connaître un peu... Quand on arrive, il y a une soirée, qu'on ne connaît personne, on est un peu timide. Et puis, plus on commence à connaître les gens, plus on commence à parler, plus on commence à se dévoiler, plus la soirée avance, alcool ou non, et plus on se dévoile. Et je pense que c'est exactement pareil dans ce documentaire. C'est que plus on vit avec eux, plus on expérience leur vie, plus ils se disent « Ah ok, on va l'aider le petit ». Il est sympa à la base, Mr. B, qui est mon coach en Thaïlande, il devait même pas m'accompagner au tournoi. Et quand il a vu à quel point je me suis donné, à quel point, entre guillemets, j'étais fou, il a dit, je vais l'aider, quoi. Je vais l'aider, et c'est ça, pour moi, qui me touche, c'est qu'il n'y a rien qui est scénarisé. on se laisse porter et on voit la relation qu'on a. Et je pense que c'est en étant le plus honnête et le plus sincère possible qu'on arrive à avoir ces belles images.
Trop bien.
Non, mais attends. Non, mais parce que non, mais je compare un peu à moi quand je veux faire des trucs où je vais essayer de me dépasser et tout. Mais je veux dire, là, ce que tu as fait, à un moment, est-ce que tu as cru que tu pouvais gagner le combat quand t'affrontes le... Parce que, on peut spoiler un peu la saison 1 ou pas?
On peut spoiler un peu, bien sûr.
Pas la saison 2, parce qu'elle vient de sortir. La saison 1, t'es amateur, tu t'affrontes un pro. Et au début, tu es un peu en train de gagner, tu mets des coups et tout. Mais après, il t'éclate. Enfin, il te met des coups et on arrête le combat.
C'est compliqué, en fait. Déjà, c'est compliqué parce que la question de savoir si je pouvais gagner, elle se pose pas vraiment. La première question que j'ai, c'est j'essaye de pas me casser quelque chose.
Ouais, c'est ouais.
Et ce qui est assez dingue, c'est toute l'équipe qui me le raconte après, c'est que je leur dis, mais au fait, si je m'étais cassé quelque chose, il se serait passé quoi? Et la veille, ils ont fait une réunion entre eux, en se posant la question, et ils se disent, ben, on filme. C'est pas notre pote, on filme. C'est-à-dire qu'on monte dans l'ambulance avec lui, on va voir, c'est entre guillemets, ça fait partie de l'aventure, et ça montrait aussi que le nombre de blessures. Il y a eu un chaos, deux combats avant, parce qu'il y a 5 ou 6 combats en tout, j'étais le dernier combat, mais il y a un chaos juste avant, donc c'est vrai que c'est extrêmement impressionnant. Donc, est-ce que je me suis posé la question si je pouvais gagner? Déjà, alors c'est vrai qu'il... Il n'est pas ultra impressionnant. C'était pas un professionnel qui avait 50 combats. Il en avait, je crois, 3-4 dans les jambes, ce qui est quand même 3-4 plus que moi. Et surtout, il était plus grand et plus lourd parce que en l'espace d'une semaine, j'ai quand même perdu 3 kilos. Parce que forcément, à force de s'entraîner, de perdre... Donc c'est vrai que sur la balance, on avait quand même un grand écart. Et est-ce que je me suis posé la question que je pouvais gagner? Sincèrement, oui.
Ouais.
Parce que au début, il m'a dit, j'en parle avec mon coach, il dit « tente en anglaise parce que t'es assez à l'aise en anglaise et tu peux le gêner ». Et en fait, le problème, c'est que les 2-3 fois où je lui ai mis des belles patates dans la gueule, je me suis dit « mais ça lui fait rien en fait ». Et elle était là la différence, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je me suis dit « tain, c'est là bien, tac, tac », et je voyais, il bronchait pas quoi. Et j'avais même presque l'impression que je commençais un peu à le gratouiller, à le titiller, et qu'il fallait pas que je fasse trop ça. Et à un moment, c'est dingue, sans vraiment dévoiler, j'arrive à lui passer une balayette, donc magnifique, moi je suis ultra fier.
Ah oui.
Quand il se relève, je vois dans son regard, il fonce sur moi, et là, en fait, j'ai vraiment eu l'impression que c'était un combat de rue, dans le sens où je me suis protégé comme un enfant. C'est-à-dire que je me mets mes bras au-dessus de moi, au lieu de tourner autour, de faire... Là, j'ai vu dans son regard. En fait, j'ai eu peur, quoi.
Oui, t'étais plus...
Ah, mais là, c'était plus un combat. C'est comme un petit peu le petit frère qui fait tomber le grand frère, vous savez, et le regard du grand frère qui se retient toujours. Et là, on a mis une claque au grand frère, on a mis un coup qui va pas. Et là, le grand frère qui va s'énerver. Et là, vous pouvez pas crier maman, mais c'est vrai que je me souviens de ce regard. Et j'ai eu un peu peur. De toute façon, j'ai eu peur, mais la peur... Elle nous permet aussi de nous sentir vivants. Je trouve que, moi, je sais que j'ai fait des sports de combat quand j'étais plus jeune, parce que j'ai jamais été très grand, donc mon père m'a mis au sport de combat entre guillemets assez tôt. Donc je faisais un petit peu d'anglaise ou autre, et j'adorais mon premier prof que j'ai eu en anglaise. Le premier cours qu'il a fait, il a dit OK, bon, voilà le premier cours. Je crois que je devais avoir 14 ans. Il a dit on vous attaque.
Ouais.
Qu'est-ce que vous faites? Alors voilà cette situation, vous attaque. Et on est passé un par un, je vous attaque, là, qu'est-ce que vous faites? Alors, il y en a qui disent, moi, je fais ci, moi, je fais ça, il y en a qui esquivaient, tout ça. Et il nous a tous dit qu'on avait tort.
Et moi, je chiale et je me mets en boule. C'est la réponse de Marie.
Comme réponse, et j'ai adoré cette réponse, il a dit, la première chose que vous faites, c'est quand on vous attaque dans la rue, vous partez en courant. Ouais. Donc, le premier cours qu'on va faire pendant une heure et demie, vous allez courir. Il a dit, et le deuxième cours, c'est si vous ne pouvez pas courir, et si vous n'avez pas le choix, là, je vais vous apprendre. Là, je vais vous montrer comment vous défendre. Il dit, mais la première chose, on n'est pas des héros. On n'est pas là pour devenir des professionnels. On part en courant. Et si vraiment quelqu'un de notre famille est en danger, si on doit intervenir, là, je vais vous apprendre comment faire. Et c'est pour ça que le premier cours, on n'a pas fait de boxe. Le premier cours, on a juste couru. Et j'ai trouvé philosophiquement ça extrêmement intéressant parce que c'est ce que ça résume dans le côté amateur, c'est qu'on apprend, mais on n'est pas là non plus pour devenir, entre guillemets, des boxeurs. On sait quel point, et surtout moi, dès que je bois un peu, on dit souvent, quand on parle pas une langue et qu'on boit un peu, on arrive d'un coup à mieux parler, même le chinois. Bah la bagarre, c'est un peu pareil, quoi. C'est qu'on se sent tous un peu Bruce Lee ou Sylvester Stallone. Et donc, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant.
Ah ouais,
de...
ah.
Marie n'est pas montée sur le ring quand on était en Thaïlande.
Tu m'as demandé, tu m'as dit, tu devrais toi et tout.
Bah oui, tu fallait que tu ailles.
Déjà, je pèse deux fois plus lourd que toutes les meufs qu'il y avait dans le truc. Et donc, c'était pas faire pour elle, tu vois.
Est-ce que.
Et en plus, je pense, j'aurais rien fait, j'aurais fait des blagues, genre, hé, hey, trop marrant.
Tu te souviens de la taille du gars que j'ai affronté, moi, qui était trois fois plus grand que moi.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que c'est une. Voilà, tu vois
oui, mais toi, t'as plus besoin de te sentir vivant.
Ah ouais,
toi,
c'est
t'es
ça,
comme moi, t'es un peu sadomaso aussi.
Ouais, j'adore.
Moi, j'ai pas ça.
Alors...
Donc, j'espère que la saison 2 se termine par toi qui te barres en courant.
Non, qui commence comme ça.
Devant le lutteur. Non.
Ouais, bah, est-ce que tu peux justement nous en parler un petit peu? Donc, quand Tourista va sortir, il y aura déjà deux épisodes en ligne. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu du Sénégal, de la lutte sénégalaise, en teasant un peu sans trop spoiler les épisodes? Moi, le Sénégal, je ne connais pas du tout. Bah, tu connaissais, toi?
En teasant, déjà, ce qui est incroyable, c'est que c'est une culture, effectivement, que je ne connaissais pas. C'est-à-dire, j'ai eu la chance d'aller quand j'avais 14 ans au Sénégal avec un ami qui était franco-sénégalais, sauf que je suis pas allé au Sénégal en fait, enfin je suis allé au Sénégal, mais je suis allé à Sali. Je sais pas si vous connaissez Sali. Sali, c'est l'endroit le plus touristique du Sénégal. C'est-à-dire que quand, entre guillemets, les touristes vont au Sénégal, ils vont à Sali, que des hôtels de luxe, sur la plage, très sympa. Donc c'est vrai que quand je suis allé là-bas, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'en fait je connaissais pas le Sénégal, et surtout culturellement par rapport à la Thaïlande, c'est vraiment un choc culturel incroyable. Humainement, j'ai jamais reçu autant d'amour, je dirais même presque trop. Dès mes premiers entraînements, dès mes premières galères, en fait, eux sont presque plus empathiques. C'est-à-dire que là où en Thaïlande, c'est à travers la souffrance qu'on va se révéler, au Sénégal, vu que j'en ai bavé relativement tôt, ils étaient presque trop empathiques en disant « Bon, bah, on va essayer de le ménager. » Mais non, faut pas me ménager. N'hésitez pas, poussez-moi.
Il est sadomaso.
Non, mais je suis là pour ça.
Kiffe, en vrai.
Et surtout, en fait, c'est pas trop le côté sadomaso. C'est qu'à la fin, il y a quand même un combat. Et qu'on a toujours peur de deux choses. La première, c'est d'être ridicule. Mais au-delà d'être ridicule, moi, tomber dans la rue, ça m'a jamais gêné. Mais c'est de leur faire honte à eux. C'est-à-dire qu'on a quand même des gens qui passent 7 jours avec nous. On a quand même des entraîneurs, on a des sparring partners, on a toute une équipe. Humainement, on a tellement de gens qu'à la fin, on ne se bat plus pour nous, mais on se bat pour eux. C'est là où culturellement et humainement, c'est la plus belle expérience que j'ai pu vivre. Et je ne pensais jamais revivre un truc aussi fort que la Thaïlande. Et le Sénégal m'a démontré que j'avais tort et qu'en fait, dans la découverte de l'autre, à travers le voyage, à travers l'homme avec un grand H, on n'est jamais rassasié. On est toujours dans... Enfin, le partage et l'échange n'est jamais quelque chose qui peut nous rassasier. Et c'est ça qui est humainement incroyable, c'est que ces deux cultures totalement différentes, la Thaïlande et le Sénégal, mais ces deux cultures pleines d'amour, pleines de d'envie, et en fait... Quand on termine cette aventure, on est vidé. Et s'il y a une chose que j'ai appris, notamment au Sénégal, c'est qu'en fait, être vidé, c'est aussi quelque chose de positif. C'est-à-dire que souvent, quand on est vidé, le soir en France, quand on rentre chez soi, après une journée de travail, on se dit « Putain, je suis vidé, je suis crevé, j'en ai marre, quoi. » Mais en fait, être vidé là-bas, ça veut dire aussi avoir fait le vide en nous grâce aux autres. Et c'est, je pense, l'une des plus belles leçons que j'ai apprises. Je dis dans un épisode sans rien spoiler, c'est que je me suis vidé de trois manières. La première, c'est que je me sentais vidé mentalement parce que je pensais que j'allais pas réussir. Je me sentais vidé mentalement où je me suis dit on va voir, c'est vraiment la première fois où j'ai douté de savoir si j'allais aller au bout. La deuxième, je me suis vidé physiquement parce qu'on mange sur place et que mon petit estomac il a pas tenu.
Je savais qu'il allait parler toilettes.
Non mais c'est vrai,
c'est une obsession. Le podcast s'appelle
Tourista. Ce que je veux dire, c'est vrai, on est en immersion, donc forcément.
Immersion.
Non mais c'est quelque chose qui a été.
Excellent, validé. Ouais. J'en ai avalé mon café hyper rapidement. J'adore ce jeu de mots.
J'ai perdu 4 kilos en 3 jours, quoi. Ça a été compliqué.
Ah ouais, on a l'estomac fragile.
Ah oui, très fragile. Enfin, je pensais pas avoir l'estomac fragile parce que j'ai quand même bien mangé, mais là, j'en ai bavé, c'était terrible. Et le troisième, je me suis vidé, mais de manière très positive, parce qu'en fait, vous allez le voir, je vais voir un marabout. Là-bas, au-delà de la culture, il y a aussi tout un côté très spirituel. Et pourtant, moi, je suis pas un bon client, je suis pas la plus croyante du monde. Mais en fait, quand vous êtes dans cette ambiance avec des gens, vous vous laissez porter. Et d'un point de vue spirituel, je me suis totalement laissé porter et entraîné avec vous allez voir des séquences avec un marabout, avec tout un... Enfin, là-bas, le combat et l'entraînement sont très importants,
mais il y a aussi 50% de marabout et de gris-gris et de spiritualité qui va faire la différence sur un combat, parce que c'est ce qui va renforcer le mental.
Ouais.
Je suis reparti avec des gris-gris, et c'est vraiment impressionnant, parce que les gris-gris, là-bas, ça fait presque peur. Hein,
c'est quoi les gris-gris, par exemple?
Bah, c'est à base d'os, c'est de la corne, c'est des colliers, et vous allez voir, là sans rien spoiler, dans l'épisode 4, lors du combat, on m'entoure d'une multitude de gris-gris, on prépare des potions, hein, mais c'est des vraies potions, c'est pas juste de l'eau qu'on va me mettre de partout dessus, qu'on va me cracher dessus.
Ah ouais.
C'est assez impressionnant, il faut se laisser vraiment porter, parce que c'est ce que je dis à un moment dans ce que je vis, sans vraiment rien dévoiler, c'est que c'est la première fois où mon mental, que j'estime être normalement assez costaud, quand mon mental craquait, ils ont réussi à me le remotiver. Et je ne sais pas si c'est grâce au côté spirituel, mais moi, en tout cas, j'ai envie d'y croire, parce que c'est vraiment ce que j'ai eu le sentiment de vivre. Et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, moi, j'étais à fond dedans. Et je pense que c'est ce qui m'a donné ce supplément d'envie de se dire, allez, on y retourne.
Trop bien.
Et est-ce que, tu sais, à la manière d'un saut en parachute, quand tu fais ton premier, le deuxième, c'est un peu plus simple. Est-ce que là, le fait d'aller t'affronter dans un sport que tu connaissais pas la deuxième fois, tu te sentais un petit peu plus tranquille ou un petit peu plus flippé?
Je me sentais un peu plus tranquille.
Ouais.
C'est un peu comme mon deuxième Koh-Lanta. Quand j'ai fait mon deuxième Koh-Lanta, on connaît un petit peu. C'est-à-dire qu'on a justement cette expérience, donc on connaît un tout petit peu les rouages.
Parce que t'es pas, dans la première, t'es pas bien, t'es lésé, tu dis je vais jamais m'en sortir, c'est impossible.
Dans la première, je me suis dit j'en ai tellement bavé dans la première que la deuxième, ça peut pas être pire. Et en fait, ça a été deux fois pire.
Allez là !
Ça a été deux fois pire parce que autant dans la première, je mets du temps avant vraiment d'en baver, autant là, dès le premier entraînement, c'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur parce que j'ai pas de cardio et parce qu'en fait, la lutte, on pense que c'est un sport de bourrin, mais en fait, c'est ultra technique. C'est-à-dire que la lutte, c'est un peu comme le judo, mais en deux fois plus violent. C'est-à-dire que c'est du judo, donc que de la technique. Et en plus, avec le choc du rugby, c'est-à-dire qu'on se rentre dedans. Mmh. Et surtout,
il n'y a pas de tatami aussi, non ?
Il n'y a pas de tatami, il y a du sable. Mmh. Et alors, ce qui est censé nous calmer, mais pour un petit corps comme le mien avec mon 1m71, quand je suis tombé au bout de 2-3 fois sur le sable, mes os me disaient « Écoute, mon coco, qu'est-ce que tu fais, quoi ?» t'es pas prêt pour ça. Donc c'est vrai que très tôt, très rapidement, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais, quoi. Je pensais avoir vécu des courbatures incroyables suite à une séance d'abdos dans l'épisode 1 de la Thaïlande, qui est d'une violence extrême, mais en fait là c'était pire, c'est-à-dire que c'était des chocs en permanence, et sans rien dévoiler, c'est vrai que c'est la première fois où j'ai pensé potentiellement effectivement abandonner, parce que ça a été mentalement, ça a été très très compliqué pour moi. Donc vous allez voir, sans rien dévoiler, c'est vrai que je me sentais bien mieux préparé grâce à la Thaïlande, et je me suis aperçu que quand on découvre une nouvelle culture et qu'on connaît pas un sport, on peut pas avoir la prétention de dire qu'on le connaît. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que la lutte, ça n'a rien à voir avec la boxe et ainsi de suite. C'est vraiment, c'est pas en 7 jours qu'on apprend. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent, hein, on n'a pas la prétention de dire qu'on apprend la boxe ou enfin le Muay Thai ou la lutte sénégalaise en 7 jours. Non, c'est juste pour montrer au contraire à quel point c'est des vrais professionnels, eux, et que nous, on n'y touche même pas du doigt, mais qu'on s'en approche un tout petit peu.
T'as une question, vas-y.
Ouais, j'ai une question. Bah, c'était pour parler de voyage. Est-ce que du coup, ce rapport voyage-sport, même quand il n'y a pas les caméras et tout, c'est un truc qui est important pour toi? Genre, j'ai toujours cette question, quand on interviewe des profils un peu comme le tien, j'ai l'impression que les vacances playa, où on fout rien sur la plage, c'est peut-être pas le plus grand kiff, ou si?
Non, justement, j'ai entendu Sylvain Tesson parler il y a pas longtemps, et il disait quelque chose d'incroyable. Il disait qu'au contraire, après une aventure comme ça, on profite d'autant plus du repos.
Ah.
C'est-à-dire que, en fait, c'est grâce à ce genre d'expérience, pour moi, le voyage type, c'est en baver un petit peu, pour que le moment où on va se faire une petite semaine ou quelques jours de repos dans un, pas forcément un bel hôtel, mais sur la plage, les pieds dans l'eau, on en profite 4 fois plus. C'est exactement comme un verre d'eau. Un verre d'eau, on en profite 10 fois plus quand on a vraiment soif, et pas quand on est conscient de pouvoir ouvrir le robinet. Voilà, l'exemple est un peu bateau, mais il est vraiment à l'image de ce que j'aime faire dans mes voyages. C'est-à-dire, j'aime d'abord un peu sortir de ma zone de confort pour pouvoir apprécier d'autant plus ma zone de confort. C'est-à-dire que je n'ai pas envie tout le temps d'être dans le rouge, mais j'ai envie de me mettre un tout petit peu dans le rouge pour pouvoir apprécier justement mes temps de repos. Ouais. Et je trouve que c'est justement cette on dit toujours hein, l'exemple du vélo. Le vélo, il faut des hauts et des bas pour avancer, sinon on tombe. Et ben, pour moi, le voyage, c'est ça. C'est avoir des hauts, mais aussi de temps en temps des phases de repos pour pouvoir se rendre compte qu'on a une montée derrière et on va en profiter.
Après, je crois que si c'est plat, ça passe aussi le vélo.
Non, si c'est plat, on n'avance pas, justement.
Bah, vélo, il suffit de pédaler.
Oui, mais il faut pédaler, mais ça veut dire qu'il faut faire de l'effort.
Ah oui, d'accord.
Donc, il faut essayer d'avoir ce rapport justement, où... Quel est ton rapport à l'effort ? Est-ce que tu profites d'autant plus du paysage qui t'entoure quand tu as eu un effort avant et que tu es fatigué, ou est-ce que la fatigue t'empêche de voir un peu ce qu'il y a autour ? C'est vraiment en fonction des gens.
C'est vrai qu'à ma toute petite échelle, les deux gros voyages que j'ai faits en me barrant, à chaque fois, bon alors, en termes de sortir de zone de confort, on est très très loin de se faire péter la gueule, hein, vous vous en doutez, mais quand même, tu vois. Et à chaque fois, la dernière semaine, sur 2-3 mois, la dernière semaine, c'était que plage, dodo et tout. C'est vrai qu'il y a un petit kiff. On s'est rencontrés quand j'étais dans ma pleine période. Après la Thaïlande, tu vois, j'ai fait les randos, j'ai fait les temples, les machins. Là, c'était gros stuff.
On bucket. On regardait coucher de soleil. De Koh-Lanta.
C'était incroyable.
Mais l'un n'empêche pas l'autre. Très sincèrement, l'un n'empêche pas l'autre. Non. Et je pense que c'est aussi de temps en temps, quand sortir sa zone de confort, ça peut juste être aussi être mentalement une surcharge de travail en France et avoir besoin d'arriver dans un autre pays et relâcher un petit peu. Mais c'est vrai que je peux vite m'ennuyer autour d'une piscine, quoi.
Le Sénégal, tu as pu découvrir un petit peu. Tu auras un spot dont tu pourrais nous parler ou nous conseiller sur le...
Alors, moi, je suis allé ce qu'on appelle sur l'île aux coquillages, qui s'appelle Alpha Diout. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant parce que ça s'appelle l'île aux coquillages parce que c'est une île qui est jonchée de coquillages vides.
Le nom est bien trouvé.
Mais en fait, c'est vraiment ultra impressionnant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est du gravier, mais pas du tout. Et donc, déjà, heureusement qu'on a des chaussures parce que je ne conseille pas vraiment de marcher pieds nus là-dessus. Mais c'est vraiment impressionnant. Et surtout, moi, ce que j'ai adoré, qui je trouve un très beau clin d'œil, un très beau symbole aujourd'hui, c'est que vous avez à 100 mètres l'une de l'autre une église et une mosquée qui se font face, parce que vous avez justement un vrai melting pot culturel et deux religions qui s'acceptent totalement. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec tous ces différents conflits ou autres, c'est quelque chose qui, moi, m'a touché. Vous allez voir dans l'épisode 1, je ne dors rien de la nuit. Pourquoi ? Parce que toutes les heures, les cloches me réveillent. Et ensuite, toutes les deux ou trois heures, vous avez l'appel à la prière.
L'île au coquillage,
c'est noté. Est-ce que dans ta bucket list, il y a des trucs, tu vas encore sortir de ta zone de confort, mon petit Alban, là ? Qu'est-ce que tu vas nous faire après ça ? C'est quoi dans ta bucket list ?
Dans la bucket list, là, ce qui ferait rêver, c'est une saison 3.
Hein ? Ah.
On a toujours envie de repartir à l'aventure parce que faut aussi préciser qu'on a une équipe derrière. C'est-à-dire que amateur, c'est pas juste Alban. Amateur, je l'ai souligné évidemment, c'est des rencontres, mais aussi tous les gens derrière la caméra. Il y a aussi tous ceux qui m'accompagnent, que ce soit ma productrice.
Il y a quelqu'un qui est venu dans Tourista, le réalisateur était c'est Ludoc.
C'est une équipe qui est une petite équipe, comme le dit Ludoc, parce qu'on a un tout petit budget, mais c'est aussi l'aventure humaine, elle commence aussi avec eux. Déjà, dans la préparation, alors moi je ne sais pas trop où je vais ni le sport, mais c'est vrai que voilà, humainement c'est tellement fort et ces gens-là sont tellement incroyables que déjà, dès que je peux les remercier, j'essaye de les mettre en avant parce que c'est eux, ils sont peut-être derrière la caméra, ils me voient en baver, mais ils sont un soutien assez incroyable et je pense que aussi sans eux, ça ne serait pas la même aventure. Donc c'est vrai qu'on dans ma bucket list, une saison 3. Et avec ces gens-là.
Ouais. Et tu sais que c'est monté par la personne qui a monté mes premières vidéos. Amateur est monté par Quentin Eden, qui est la personne avec qui j'ai commencé à faire du Dailymotion.
Est-ce que ce microcosme visuel, mais c'est un village. Paris est un village.
Ça qu'on n'est pas parisien.
La vie est un village.
C'est ça qui est beau aussi. C'est que effectivement, de toute façon, ce qui est beau dans l'échange et ce qu'on fait là d'ailleurs en ce moment, c'est que dès l'instant que tu parles un petit peu d'ouverture aux autres, de voyage et de culture, tu t'aperçois que on arrive à connaître des personnes qui ont cet amour de l'aventure en commun. Et c'est vrai qu'au final, c'est ce qui nous rapproche. Est-ce que tu connais telle ou telle personne? Ah ben oui, tu parlais de Manon que t'as côtoyé. Et c'est le hasard dans le sens où ce sont des gens qui ont une ouverture d'esprit et une appétence au voyage qui fait que on arrive à trouver une forme de microcosme, mais en fait c'est pas du hasard, c'est juste que on a une philosophie, une envie d'ouverture, qu'on a envie de pousser un peu les autres aussi vers ça. Donc voilà.
Eh bien, mes chers touristos et touristas, sur ces belles paroles, je vous fais un énorme poutou. Marie, merci pour ce quiz.
Spécial W9 du coup.
Ouais, excellent.
Et que j'ai gagné d'ailleurs.
Bravo, oui, bien sûr.
Je repars avec le bucket de bonbons.
Le bucket de bonbons. Bon,
merci
sûr.
Alban d'avoir pris du temps pour nous. La série amateur est sur la chaîne YouTube de GQ. Mes touristos et mes touristas, on a de plus en plus de commentaires, d'abonnés sur Instagram. Les commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast, on a plus de 200 avec des super notes et tout, c'est trop bien.
C'est trop bien, merci.
On commence à faire un petit peu de. On a des sponsoring un petit peu qui vont démarrer là pour après 2 ans d'amateurisme. On commence aussi à se développer pour faire de plus en plus de projets chouettes. On prépare aussi un petit truc pour cet été. Là, on a une réunion tout à l'heure, je ne peux pas vous en dire plus
on
maintenant.
On ne dira
normalement...
rien.
On a une petite surprise pour vous.
On peut faire un tour à Lambé. Il faut couper.
On regardera. Bisous. Ciao.
Bisous.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.